Harim.
On commence. Yadavar Asher Tziva Hashem, Ishki Idor Nidor Lashem. O Ishava Shvua, Lesor Isar Al Nafsho, Lo Yachel Dvaro, Kchol Ayotsem Mipiv Yase. Donc, on parle de quelqu'un qui fait un vœu. On va voir, on va expliquer ce que c'est qu'un vœu.
Voilà.
Ou bien
bon sûr.
Une Shvua, ou bien un serment. Et pour s'interdire quelque chose, alors il y a une interdiction loyachel dvaro, interdiction de ne pas profaner sa parole d'une part, et d'autre part une mitzvah assez que chol ayosem mipiv yaseh. Donc c'est un interdit et une mitzvah assez, donc l'otase vase, pour renforcer, si vous voulez, le de se tenir à ce qu'on a dit. D'accord? C'est-à-dire que ce soit un éder ou que ce soit une chevoie, si on ne tient pas ce qu'on a dit, à la fois on transgresse l'interdit de profaner sa parole, et d'autre part, on ne fait pas ce qu'on doit faire, à savoir ce qu'on a dit qu'on allait faire. Et puis, immédiatement, alors, on a traité ici d'un homme qui fait un éder, et ensuite on parle d'une femme qui fait un éder, et du coup, le problème d'une femme qui fait un éder, ça va se dire selon que cette femme vit chez son père, est encore du ressort de son père, ou alors qu'elle se soit déjà éventuellement fiancée, c'est-à-dire Kiddushin, ou bien Nisuin, ou bien qu'elle soit toute seule, soit indépendante, on verra. On va voir tout ça. Donc c'est ça le début de Parshat Matot. Alors on devra regarder pourquoi est-ce que cette parasha qui parle en premier lieu du problème du Neder, pourquoi est-ce que c'est introduit d'une manière un peu différente. C'est que Moshe Rabbeinu ne parle pas directement au Bnei Israël, d'accord, il parle au chef des tribus. Raché Amatot, chef des tribus. Pourquoi est-ce que ça relève plus particulièrement des tribus? On voudrait savoir pourquoi. Bien entendu, par la suite, il va s'adresser au reste du peuple. Mais pourquoi ici on mentionne spécifiquement les chefs de tribus? Qu'il y a un problème particulier, une relation particulière entre les chefs des tribus et les problèmes d'Arim. On va voir ce qu'il en est. Quel est le statut particulier d'un chef de tribu par rapport à la notion de vœu. Ensuite, la deuxième chose qui est dite à Moshe Rabbeinu, il est dit à Moshe Rabbeinu, donc le chapitre suivant, la Medalef, si vous regardez les premiers psukim de ce chapitre, vous voyez quelque chose d'assez intéressant. Moshe, Hashem dit à Moshe, ne kom nikmat bene Israël, met à Midianim. C'est-à-dire, venge les Bnei Israël sur, et d'ailleurs tout de suite après tu mourras. Bon, c'est-à-dire c'est la dernière chose qui est prescrite à Moshe Rabbeinu. Ce qui est intéressant de savoir pourquoi c'est justement cette chose-là qui est prescrite à Moshe Rabbeinu juste avant sa mort. Il n'y a pas quelque chose de plus juxtapose, en fait, ce tu venges, acha, t'es assez fait la mecha. C'est dans le même verset. Venge l'Évné Israël, et ensuite tu mourras. Et à ce moment-là, il a reçu cet ordre, Moshe Rabbeinu, et regardez ce que dit Moshe Rabbeinu. D'abord, Moshe, la ham, les morts, et chalsou, mitrem, anashim, la tsava, viyou, al midian, la tête, nikmat, hachem, be midian. Alors, qu'est-ce que vous voyez dans ce verset? Moshe Rabbeinu a reçu l'ordre de venger, et il le répercute au peuple d'Israël. Mais il y a une différence. Quelle est la différence entre le premier verset, enfin, le verset tel qu'il est? C'est quand c'est Hachem qui... différence. Regardez le texte, s'il vous plaît. Quelqu'un qui a quelque chose à dire? Il y a quelque chose d'important, une différence importante. Qu'est-ce qu'Hachem dit à Moshe? Venge les Bnei Israël sur les Égyptiens, sur les... Qu'est-ce que Moshe dit aux Bnei Israël? Concernant la vengeance.
Nikmat Hachem.
Oui, c'est la vengeance d'Hachem. Moshe Rabbeinu dit que c'est Hachem qui doit se venger. Il faut faire en sorte qu'Hachem se venge. Donc, souci Israël et Moshe, donc, Hachem se venge. D'accord? Ici, il faut entendre la vengeance au sens de, il faut faire quelque chose à des gens qui vous ont attaqué alors que ils n'avaient pas du tout à se mêler de toute cette affaire. Midian n'était pas concerné. Moab avait peur des Bnei Israël. Donc ils ont vu que Sichon, les rois qui étaient rois des royaumes, qui devaient protéger Moab, ils ont été balayés par les Bnei Israël. Alors les gens de Moab, ils ont complètement paniqué. On va être balayé comme les autres, il faut qu'on fasse quelque chose. Alors, vous savez bien ce qui s'est fait, vous vous souvenez de Parchat Balak, bien que je crois qu'on n'a pas enseigné, parce que j'étais pas là, je crois. Et, enfin, pas disponible. Et ce qui s'était passé, c'est qu'ils pourquoi est-ce que les Moab étaient allés demander. Parce que ils ont appris que le chef des Bnei Israël c'était Moshe et que Moshe avait vécu assez longtemps en Midian. Donc intelligemment ils se sont dit on va peut-être essayer de savoir des choses sur Moshe pour lutter contre lui. Interroge. Ils leur ont dit probablement parce que ils leur ont dit, ben, la force de ce Moshe, c'est sa parole. Alors, du coup, les gens de Moab, ils sont allés chercher quelqu'un dont la force était aussi la parole. Et ça, c'est Bilham. C'est comme ça que Bilham est arrivé dans le tableau en question. Bilham et les Midianites se sont mêlés et jusqu'au dernier conseil. Vous savez bien que tout ce que Balak avait demandé à Bilham, ça n'a pas marché. Balak avait demandé à Bilham de trouver un point de vue à partir duquel on pouvait voir les Bnei Israël sous un angle qui pourrait être interprété négativement. Donc, c'est-à-dire, il leur a dit, tournez autour du clan Israël. C'est une façon d'attaquer en quelque sorte ou de pouvoir dire quelque chose de négatif sur les Bnei Israël. C'est ce qu'ils ont essayé de faire. Je vais essayer d'appeler les gens qui n'ont pas été appelés peut-être. Donc, maintenant, il y a un problème de... Oui, alors, dans le dernier, quand ça n'a pas marché, Bilam n'a pas... demandé Balak. Au contraire, il les a bénis. C'est gratuit. Il a dit, le Dieu des Juifs, il est très sensible au problème de mœurs. Donc, si vous arrivez à faire tomber les Bnei Israël dans ce domaine-là, vous pourrez peut-être les vaincre. Elle sera en colère contre eux. Et les Midianim, ils ont été d'accord de prostituer leur princesse pour faire tomber les Bnei Israël. C'est ce qui s'est fait. Les Moabites ont fait la même chose. Mais les Midianites, c'était, d'une certaine manière, les Midianites, c'était vraiment inacceptable, parce qu'ils n'étaient en rien menacés. Et donc, eux, ce qu'ils ont fait, c'est du mal, c'est par Sina, par haine des Bnei Israël, qu'ils l'ont fait. Les Moabites auraient dû être sanctionnés aussi, mais, comme vous savez bien, Akadosh Baruch Hu ne voulait pas détruire le peuple de Moab, parce qu'il voulait encore qu'il avait besoin de sortir un élément très important du peuple de Moab, qui est Ruth, un Moabite, qui est l'ancêtre de David, l'ancêtre du Mashiach. C'est une princesse Moabite, et donc il fallait laisser vivre le peuple jusqu'à ce qu'il produise cette princesse. C'est pour ça qu'ils ne sont pas détruits. Alors maintenant, Hachem dit à Moshe, les Bnei Israël doivent se venger pour ce que les Midianites leur ont fait. Et Moshe Rabbeinu nous dit, c'est Hachem qui doit se venger, mais bon, il nous incombe à nous. Mais la vengeance, c'est la vengeance d'Hachem. Ça, c'est la grande leçon, là, dans ce problème de vengeance. Ensuite, il faudra comprendre. C'est quoi cette histoire de vengeance? On sait très bien que dans la Torah, la vengeance en tant que telle, elle n'est pas bien vue. Mais pourquoi ici, en particulier? Bon, alors il y a eu cette guerre, effectivement. Midian. Puis il y a tout un problème de partage du butin, etc. Et puis ensuite, ce qui va être important, c'est le chapitre Lamed Bet, chapitre 32, qui nous dit que Miknera Livnegad Atsum Meod. Les tribus de Reuven et de Gad avaient des troupeaux Atsum, ça veut dire terriblement nombreux. Meod, faut toujours dire au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Vayirou et Eretz Yahazer. Et ils ont des territoires qui étaient avant le franchissement du Yarden, du Jourdain. Ils ont dit, voilà, ça c'est des super pâturages. Et nous on a des troupeaux qui doivent paître. Donc nous on veut s'installer là. C'est-à-dire ils ont dit, on va pas passer le jour. On voudrait avoir nos territoires là, avant le passage du Jourdain. Ils vont chez Moshe Rabbeinu, chez Elazar Cohen, et chez tous les autres princes, et ils disent, voilà, ce pays-là, un pays qui est fait pour... Et nous, on a les troupeaux. Et donc, si vous en êtes d'accord, on voudrait qu'on nous donne notre part dans la terre d'Israël sous forme de ces territoires-là. Et nous, on veut pas de part d'Eretz Israël et du Jourdain. Alors, Moshe Rabbeinu lui-même, quand il entend ça, il s'adresse, il venait Gad, il venait Reuven, et Mon cher Aveugle, il prend très mal ce qu'ils sont en train de dire. Il dit, quoi, vous pensez que les autres vont aller faire la guerre et vous serez là planqué ici vous êtes en train de détourner le cœur des Bnei Israël, de les détourner, de leur enlever du courage pour traverser vers la terre qu'Hachem leur a donnée. Vous êtes en train de nous refaire le coup des explorateurs, là. Alors vous savez bien que la colère d'Hachem s'est enflammée ce jour-là, et il a dit que ces gens-là, n'entreront pas en Eretz Israël, à part Caleb Ben Yefouné et Yoshua Ben Nun. Eux, ils n'ont pas laissé. Les Bnei Israël, ils ont pris 40 ans d'errance dans le désert, et maintenant vous êtes là, vous êtes en train de continuer le même travail que les explorateurs. Alors, ils ont compris que la proposition telle entendue, en tout cas par Moshe Rabbeinu, il faudrait savoir est-ce que proposition, ou simplement ils se sont mal exprimés, mais ils se sont approchés de Moshe, ils ont dit non, pas du tout. On va construire des enclos d'enfants, et puis qui vont rester là, et nous on va marcher à la tête de l'armée des Bnei Israël jusqu'à ce que tous les Bnei Israël soient installés complètement dans des villes fortifiées, enfin tout ce que vous voulez, ils sont parfaitement installés. Nous ne retournerons chez nous que quand les autres seront parfaitement installés. Nous, on veut seulement avoir notre part de ce côté du Jourdain. Alors du coup, Moshe Rabbeinu a dit, ok, si vous faites ça, si vous vous armez devant Hachem pour la guerre, et que chaque homme armé, armez-vous au Jourdain devant Hachem jusqu'à ce qu'il chasse ses ennemis devant lui, que la terre soit conquise devant Hachem, retournez, vous serez quitte envers Hachem et envers Israël, et cette terre sera pour vous en possession devant Hachem. Mais si vous n'agissez pas ainsi, alors vous aurez fauté devant Hachem, et prenez conscience de votre faute, qui vous rattrapera. Donc maintenant, construisez donc ces villes pour vos jeunes enfants, votre petit bétail, qui est sorti de votre bouche. Vous voyez, on retrouve une expression qui rappelle ce qui a été dit sur les Nédarim, sur les vœux. Et alors, ils ont dit, voilà, on fera tout ce que tu nous auras... mais nous, effectivement, on va prendre les armes, on va marcher avec vous pour faire la guerre. Et du coup, Moshe Rabbeinu a donné les ordres à Elazar, parce que ce qui allait se passer, Moshe Rabbeinu ne serait plus là pour le constater, Moshe Rabbeinu ne va pas rentrer en Eretz Israël. Donc l'engagement qu'ils prennent, ils le prennent devant Elazar Cohen, devant tous les Bnei Israël, mais Moshe ne sera plus là. Alors Moshe dit à Elazar, à Yoshua Ben Nun et au chef des pères des enfants d'Israël, il leur dit, si les enfants de Gad et les enfants de Reuven traversent avec vous le Jourdain, tous ceux qui prennent les armes pour la guerre, devant vous, vous leur donnerez la terre de Gilad en possession. Vous donnerez effectivement cette terre-là, mais s'ils ne passent pas avec vous en armes, ils prendront possession parmi vous en terre de Canaan. Sinon, on ne leur donnera pas ce qu'ils veulent, ils devront prendre une part dans la terre de côté-là. Ils ont répondu, ce qu'Hachem a dit à tes serviteurs, on nous le ferons, etc. Donc ici, on voit en particulier une notion qui s'appelle un tnaï, une condition. Mon cher Rabbeinu a dit, vous aurez ce que vous demandez sous condition. Et il y a une halakha qui dit que dans certains cas, on doit énoncer la condition sous forme de ce qu'on appelle un tnaï kafoul, c'est-à-dire une condition double. C'est-à-dire, il faut énoncer, si vous faites ça, alors, et si vous ne le faites pas, alors. Ça, c'est le double. Et c'est quelque chose que, par exemple, certains font attention quand on, dans un mariage, quand on désigne les témoins, certains les désignent avec un tnaï kafoul. Ils disent, vous êtes témoin et personne d'autre n'est témoin. La plupart des gens se contentent de dire, vous êtes les témoins, mais certains disent, il faut un tnaï kafoul, double, pour être sûr que les autres gens ne sont pas témoins, parce que s'ils étaient témoins eux aussi, comme sous la roupa il y a des parents, etc., tous ces gens-là qui ne peuvent pas témoigner, parce qu'ils sont trop proches, ben, ils mettraient le témoignage, enfin, ils annuleraient parce qu'ils participent d'un groupe dans lequel il y a quelqu'un qui est trop proche pour avoir le droit de témoigner. Donc, pour que ces gens-là soient exclus du témoignage, certains font attention de les exclure explicitement. Personne d'autre n'est témoin. Ça s'appelle un tnaï kafoul. Vous voyez ici que si il ne... On ne voit pas très bien comment ça pourrait se faire, parce que Moshe Rabbeinu nous dit, si ils font ce qu'ils ont dit, alors on leur donnera effectivement la terre de l'autre côté du, enfin de l'autre côté du Jourdain, pas la terre de Canaan, pas dans la terre de Canaan. Et s'ils ne le font pas, ça veut dire, s'ils viennent pas faire la guerre jusqu'au bout avec vous, alors on leur donnera pas ce terrain. Mais ils auront un terrain dans Eretz Canaan, sur la terre de Canaan. Alors, intéressant de voir que on leur fait une faveur en leur donnant un terrain qui n'est pas prévu en quelque sorte. Akadosh Baruch Hu, il a promis la terre de Canaan à Ovné Israël, et voilà deux tribus qui viennent et qui disent, ben nous on veut du territoire, mais on veut pas le territoire qui était prescrit. On veut un et vous l'aurez si vous faites ce que vous avez dit, sinon ben, vous aurez votre part. C'est pas sinon on vous fera la guerre, etc. Non, si vous ne faites pas ce que vous avez dit, alors vous aurez une part comme tout le monde. C'est étonnant, quoi. Avoir une part comme tout le monde, ce serait une punition en quelque sorte pour eux, à cause de leur... Maintenant, il y a toujours un problème dont on a déjà parlé et qui me paraît toujours un problème un peu difficile, c'est que la terre d'Israël, la terre de Canaan, c'est celle qui est entre le Jourdain et la mer, si vous voulez. Là, les douze tribus. Et bien entendu, on allait donner à chaque tribu un territoire qui correspond aux conditions sous lesquelles la tribu en question va pouvoir s'épanouir au mieux. C'est-à-dire une tribu qui, pour s'épanouir, doit être dans la mer. On ne va pas les mettre dans les montagnes de, qu'on appelle les montagnes de Judée. D'accord? Donc, en fait, chaque tribu va être à sa place, à la place qui va lui permettre de s'épanouir, de donner tout ce qu'elle est capable de donner. Et ça, c'est des territoires ad hoc, en quelque sorte, des territoires adéquats Bon, ils sont la résultante du partage de la terre d'Israël en 12. Mais avec ces deux tribus-là, qui ne participeront pas à ce partage-là, et qui vont avoir les territoires en dehors de... entre le Jourdain et la mer. Ils sont de l'autre côté du Jourdain. Et donc, plus aucune tribu ne sera plus à sa place. Puisque maintenant, on va partager le territoire en 10 au lieu de le partager en 12. Mais comment est-ce qu'on a pu permettre une chose pareille? Comment est-ce qu'on peut permettre... tout le, semble-t-il, tout le projet divin? Voilà que ce projet divin, là, il est mis en danger, il est mis en... Bon, il va pas se réaliser. Pourquoi? Pour des raisons matérielles, on peut parler comme ça. Mais c'est pas que les troupeaux d'Ebné Gad, d'Ebné Rouven allaient crever s'ils étaient sur le... C'est que là, le terrain était particulièrement adéquat. Donc c'est énorme, semble-t-il, la responsabilité. Et c'est étonnant que mon cher Rabbeinu, donc Hachem aussi, ait accepté cela. Enfin, c'est... Je trouve ça surprenant. J'arrive même pas vraiment bien comprendre. Bon, il faut dire que, bon, c'est le projet qu'ils vont vouloir. C'est un peu compliqué. Ceci mis à part, que d'avoir des territoires qui sont de l'autre côté du Jourdain, c'est une faiblesse, du point de vue des guerres éventuelles, parce que ces territoires-là, ils sont coupés des autres. Donc ils sont une proie beaucoup plus facile. Et d'un autre côté, bien entendu, beaucoup de ponts et de routes, de chemins qui vont faire la jonction entre les territoires de Gad et de Reuven et le reste des tribus. Donc par conséquent, si un ennemi arrive par... Il arrive à Negad, Nerouven, il est déjà fait pour qu'il puisse entrer en Eretz. La conséquence est, de ce point de vue-là aussi, très surprenant qu'on ait accepté cette faiblesse, en fait, de la terre, qui est là infligée, en quelque sorte, à la terre d'Israël. Ça leur a été concédé, et ils ont fait ce qu'on leur demandait de faire, et ils ont eu ces territoires. On sait très bien que finalement, les Bnei Gad et les Bnei Reuven vont être les premières tribus quand les Bnei Israël vont être exilés. Ensuite, qui s'appelle Masé. Massé, c'est les déplacements, les tribulations. Et on nous énumère les étapes des Bnei Israël entre la sortie d'Égypte et l'entrée en Eretz Israël. Les Bnei Israël, ils ont campé pendant 40 ans entre la sortie d'Égypte et l'Israël. Mais les 42 stations qu'il y a eu, des stations où obligatoirement les Israël sont restés pour la même durée. Il y a des moments, des endroits où ils sont restés des années, des endroits où ils ont fait que passer, si on peut parler comme ça. Alors, leur déplacement, c'était toujours Alpi Hachem, fameuse nuée. L'Israël devait, à ce moment-là, on se mettait en marche, on démontait le Mishkan, et on démontait toutes les tentes. Et on campait lorsque la nuée en question s'arrêtait. Donc les Bnei Israël ne savaient jamais, quand ils arrivaient à un certain endroit, et qu'ils s'arrêtaient, ils ne savaient pas du tout pour combien de temps ils s'installaient. Absolument aucune idée. Et on voit que ça a été très très très... Les endroits, ils ont passé très peu de temps, et d'autres endroits où ils ont passé très longtemps. Donc, au début de la paracha, il y a l'énoncé de ces différentes tribulations des Bnei Israël. Et ensuite, il y a l'énoncé des limites d'Eretz Israël, les frontières d'Eretz Israël, si vous voulez. On décrit comment avancent les frontières des Bnei Israël, d'Eretz Israël. Ensuite, il va y avoir le partage de la terre, c'est-à-dire, c'est pas qu'on va vraiment compte, on va mettre responsable, etc. Ensuite, il y aura évidemment les villes d'Elvim. Les Elvim vont avoir 42 villes. Il n'y avait pas de territoire. Des villes avec une ceinture verte autour de la ville, etc. Mais il n'avait pas de territoire. Et leurs villes, les villes des Levim, fonctionnent aussi comme villes-refuges. En plus des 6 villes-refuges qui ont été désignées comme telles, les 4 de la tribu joue aussi le rôle de administré par les Lévim, qui sont donc des spécialistes de l'urbanisme ou de, enfin tout ça, de la gestion des villes. Alors justement, on nous donne ici les fameuses villes-refuges. Alors, il y a d'un côté du Jourdain et trois. Et on nous dit que c'est Moshe Rabbeinu qui a désigné les 3 villes-refuges du côté, avant le franchissement du Jourdain. Il n'a pas franchi le Jourdain. Et il a fait cette mitzvah, bien qu'en réalité, n'ont fonctionné que quand elles ont été toutes désignées comme telles. Donc ce que Moshe Rabbeinu a fait, il a désigné des villes-refuges, mais qui n'ont pas fonctionné comme villes-refuges. Jusqu'au moment où, sous la direction de Yoshua, on a pu désigner les 3 autres villes-refuges de l'autre côté du Jourdain. Alors, les halakhot concernant les villes-refuges. Et puis, il y a un retour sur un sujet qui avait été traité précédemment. Vous vous souvenez que il y avait un trou dans la législation de l'héritage. C'est-à-dire, il n'avait pas été dit encore ce qu'allait se passer quand quelqu'un allait mourir et qu'il n'aurait pas d'héritier. Il donc les filles de Slofrod, qui lui est mort effectivement en n'ayant que des filles, ces filles-là sont allées demander à Moshe Rabbeinu de faire quelque chose, de régler le problème, parce qu'ils voulaient assurer à leur père une pérennité en quelque sorte, que la terre d'Eretz Israël s'était en particulier partagée entre ceux qui sont sortis d'Égypte. Et elles ont dit, notre père, il aurait dû avoir une part dans l'héritage, mais il n'a pas de fils, donc qu'est-ce qui va se passer? Et donc Moshe Rabbeinu a interrogé Hachem, et Hachem a dit, ce que disent les filles de Slofrod, elles ont raison, c'est juste, et elles vont avoir une part d'héritage. Mais du coup, ça a créé un problème, parce que elles ont une part d'héritage d'un territoire qui est dans leur tribu. Mais si elles se marient avec des gens qui ne sont pas de cette tribu-là, une partie de la tribu de Menaché, disons, et puis elles vont épouser quelqu'un de la tribu d'Yehuda, alors du coup, la tribu d'Yehuda va avoir une part dans le domaine de Menaché. Donc les gens, effectivement, la famille des filles de Slofrod, ils sont venus protester. Elles peuvent se marier avec qui elles veulent, mais seulement avec des gens de leur héritage ne passe pas à une autre tribu. Par la suite, on est passé par-dessus ce problème-là, je ne sais pas exactement comment, et il n'y a plus d'exigence, et les de leur elles pouvaient se marier avec qui elles voulaient, quelle que soit la tribu de leur mari. Voilà, on a passé rapidement en revue les sujets, une partie des sujets fondamentaux de ces deux parchiotes de Matot. Je reviens sur le début de Matot, sur la paracha sur le sujet des Alors, quand quelqu'un dit, par exemple, il va donner un animal, il annonce qu'il s'engage à donner une bête pour l'approcher comme Ola, par exemple. Il s'engage à donner une Ola, qui va être donc une bête, qui va être approché comme holocauste. Voilà. Donc, il a pris ça sur lui. C'est-à-dire, quand il dit « je m'engage à cela », il est une bête, et maintenant il désigne une certaine bête. Avant qu'il ne l'amène au Beth Amikdash. Donc, comme il s'est engagé à amener une bête, eh bien, il va devoir en amener une autre. Jusqu'à ce que, effectivement, la bête qu'il aura désignée arrive et soit approchée comme Ola. Si quelqu'un dit sur une bête précise, cette bête-là, je vais la donner en Ola, je m'engage à l'amener en Ola, si maintenant cette bête meurt, il n'a aucune obligation. Parce qu'il avait dit que c'est cette bête qui l'amène. Si cette bête n'est plus là, il n'a pas d'obligation. Ça s'appelle une nedava. Ça s'appelle un... Maintenant, à l'être humain, de s'engager à faire des choses, de changer le statut éventuellement des objets. Supposez que quelqu'un dise, il fait un vœu, et par ce vœu, il dit, je m'interdis les pommes vertes, par exemple. Il a des pommes vertes. Il faut qu'il mange des pommes. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il s'est interdit de manger des pommes vertes. Alors, a priori, on pourrait se dire, c'est moi qui me suis interdit de manger les pommes vertes, maintenant je change d'avis, je me le permets. S'il fait ça, alors il va transgresser ce dont on a parlé, il va profaner sa parole, et il n'aura pas fait ce qu'il avait annoncé qu'il allait faire. Il aura transgressé, donc. Alors, il existe une procédure par laquelle il va aller, disons, trois personnes ou bien un spécialiste, et il va essayer d'expliquer que quand il s'est engagé, il n'a pas pensé qu'un jour il aurait besoin de manger des pommes vertes. Donc il va dire, on veut alors le Beddin, s'il s'agit d'un tribunal ou bien l'expert, il va juger est-ce que son argument est valable, et si l'argument est valable, alors il lui dira moutarlach, moutarlach, moutarlach. C'est-à-dire, il va annuler le vœu. Et donc, la personne pourra manger ses pommes vertes. Comment est-ce qu'on interdit quelque chose? De la manière suivante. On va dire, je reprends mon exemple des pommes vertes, la personne va dire, je considère que pour moi, ces pommes vertes, elles me sont aussi que m'est interdit un corban. Bon, si j'avais un corban, j'ai pas le droit de le manger, eh bien, on va prendre d'une certaine manière cet interdit-là comme modèle et on va l'appliquer aux pommes vertes. À des pommes corban. Mais elles vont être interdites. Et donc, il va utiliser une formule dans laquelle il va dire clairement que il veut s'interdire les choses comme il s'interdirait un corban. Cette chose m'est interdite comme un corban. Alors, par exemple, il va y avoir des règles. Si quelqu'un, dans son éder, il s'est engagé à approcher un animal comme Corban, par exemple, au Beth Amikdash, alors il va falloir voir combien de temps est-ce qu'on va lui laisser pour s'acquitter de... Alors, la halakha, elle est que au prochain Yom Tov, la prochaine fois qu'il devra aller à Yerushalayim, alors il aura l'obligation de s'acquitter de son patrila. Et si il tarde, s'il ne le fait pas, alors il aura trois régalim, trois yamim tovim, et pour s'en acquitter. Certains vont dire qu'il faudra aussi trois yamim tovim, soit dans l'ordre de Pessah, Shavuot, Sukkot. Bon, donc il va avoir un certain laps de temps durant lequel il pourra s'acquitter a priori, a posteriori, donc a priori il devrait le faire tout de suite au premier Yom Tov. Posteriori, il aura trois régalim pour le faire. Il y a une notion qui s'appelle shvoa. Shvoa, c'est juré, donc c'est un serment. Alors, juré dans la Torah, c'est quoi? C'est en fait, quand on jure, en général, c'est pour donner du poids à sa parole. Il dit qu'il jure. Par exemple, il y a des situations... On peut aussi s'interdire des choses avec la Shvoua. Mais par exemple, il va y avoir des Shvoua qui sont prescrites par la Torah. Dans certains cas, la Torah dira que quelqu'un doit jurer pour donner du poids à sa parole. Alors, bien entendu, pour que le serment donne vraiment du poids, eh bien, on va utiliser le Shem Hashem, le nom divin. En quelque sorte, on va jurer en utilisant le nom divin. Donc, si quelqu'un, comme on dit en français, je te le jure, c'est pas un serment pour la Torah. C'est pas bien de dire ces choses-là, mais ce n'est pas ça qu'on appelle un serment dans une Shvoua dans la Torah. Shvoua, c'est seulement si on mentionne le Shem Hashem. Alors, vous voyez, quand il s'agit de mentionner le Shem Hashem, puis ensuite de la parole, facilement qu'on dise, alors il a profané, parce qu'il a mis de la Gdusha, en quelque sorte, dans cette parole, puisqu'il a mobilisé Hashem, le nom divin, pour donner du poids à sa parole. Mais c'est dit aussi sur le Neder. Ça veut dire qu'ici, il y a une notion intéressante que quand elle prend cette forme de néder, ici, cette parole-là, elle a une dimension telle que si on ne tient pas sa parole, ça s'appelle une profanation. Si quelqu'un a fait un éder, si je reviens à mon exemple des pommes vertes, s'il a fait un éder sur les pommes vertes, en fait, la Torah va lui demander des comptes s'il ne tient pas sa parole, exactement comme si, en mangeant ces pommes vertes qu'il s'était interdit, comme si il a mangé, je ne sais pas, une côte de porc. Finalement, c'est jamais que ça. Et donc, la parole de l'homme, quand elle prend certaines formes, elle est considérée comme la parole d'Hachem, en quelque sorte. Elle a le même effet que la parole d'Hachem. Sauf qu'effectivement, sur la parole d'Hachem, il n'y a pas de moyen de Zaracham pour dire, écoute, aujourd'hui, ça m'arrangerait bien de manger un plateau d'huîtres ou des choses comme ça. Ça marche pas. Il n'y a pas de racham qui puisse le permettre. Par contre, si c'est interdit quelque chose qui est permis par ailleurs, mais que un tribunal ou un expert va pouvoir grande différence. Mais tant qu'on n'a pas passé par ce processus-là, alors la Torah va lui demander des comptes, comme elle demande des comptes à quelqu'un qui ne respecte pas la parole d'Hachem, un interdit. Par contre, on épingle en quelque sorte la parole d'Hachem, qui est assez énorme. Considérez que il s'agit d'une profanation. Lo yachel shon chulin, en fait. C'est une profanation. Bien. Alors, on a... Cette paracha avait été donnée par Moshe Rabbeinu en s'adressant d'abord au Rashi Hamatot, au chef des tribus. Alors, pourquoi effectivement Rashi Hamatot? Pourquoi on s'adresse à eux? Rashi dit, Chalakav, écrit là, aux princes, aux chefs de tribu, en leur enseignant en premier, V'yacharkach l'chol bnei Israël. Et ensuite seulement aux bnei Israël. La vérité, c'est que c'est toujours comme ça. Paradibrot. Ken, où est-ce qu'on sait que ça a toujours été comme ça? Ce moment, on l'avait pas mis en épingle, on n'avait pas monté, on n'avait pas dit, mais Talmud Lomar, Yashuvre Lav, Aaron, Cholansim, Baïda, Baïdaber Moshe Elehem, Vachechen, Nikshu, Kol Bene Israël, Umara, Le Omra Khan. Mais alors pourquoi est-ce qu'on le mentionne ici? Puisque c'était une règle qui était valable toujours. Lamad, שהפרת נדרים ביחיד מומחה, ואם אין יחיד מומחה, מפר בשלושה אדיוטות, או יכול שלא אמר משה פרשה זו, אלא על הנשיאים בלבד, זה הדבר, נאמר בשבותי חוץ, זה הדבר, מה להלן נאמר לאהרון ובניו ולכל בני ישראל, comme c'est marqué chez Nehemar, d'Aber et Aaron, Avzou Nehemra le Koulan. Et donc, Rashi, il amène plusieurs. Pour mettre ici en avant le fait que Moshe Rabbeinu s'adresse d'abord au Rashi Amatot. Pourquoi est-ce qu'il le dit ici? C'est pour nous dire que, a priori, les Rashi Amatot, les chefs des tribus, sont des gens qui sont probablement des gens Or, je vous ai dit que si quelqu'un, si le celui qui a parlé des pommes vertes, tout à coup il a besoin de manger des pommes vertes. Je vous ai dit qu'il ira voir un tribunal. Mais en fait, il peut aussi aller voir un expert. C'est le Talmid Chacham, un sage, qui connaît les gens, pourrait déceler exactement si ce qu'ils disent est vrai et tout. Et lui, le cas échéant, il peut lui permettre, effectivement, annuler son vœu. Mais si on ne trouve pas, s'il n'y a pas de... Si sur place, on n'a pas d'experts, alors on peut prendre trois personnes et elles ne sont pas expertes, on peut que ce ne soit pas... Personne ne peut, à elles trois, annuler le vœu aussi bien, aussi, comme le peut l'expert. Et vraisemblablement, les chefs des tribus sont... des candidats à être experts, si vous voulez. Ce sont des gens qui connaissent bien la Torah, et donc c'est pour ça qu'on s'adresse à eux. Il va y avoir des circonstances dans lesquelles ils auront un rôle particulier à jouer. Donc ici, il y a quelque chose qui est présenté comme étant extraordinaire. Mais ensuite, on nous dit, mais en vérité, ça se passe tout le temps. C'est un peu la même chose que ce qu'il y avait, on a dit, Ma'inan Shmita, etc. Vaikra, où on a dit, dans la Shmita, tout a été donné d'emblée, et ensuite, on a dit, mais c'était la même chose pour les autres aussi. Donc, on a comme ça des situations dans lesquelles on présente quelque chose et dont on pourrait penser que c'est spécifique et pas du tout, c'est la règle générale. Hachem appelle mon cher Rabbeinu, on finit par nous dire que c'est pas seulement dans ce premier, dans ce verset de Vaikra, mais que c'est en général, chaque fois que Hachem s'adresse à Moshe Rabbeinu, il l'appelle, et c'est une marque d'amour qui manifeste ici. Il l'appelle par son nom, et ensuite il lui parle. Chaque fois que c'est marqué Vaïdaber Hachem, c'est pas marqué Vaïdaber Hachem El Moshe. Moshe, non, c'est pas comme ça. On ne le dit pas. Mais c'est comme ça. C'était vraiment comme ça que ça se passait. Et donc là, on voit très bien que certaines fois les choses, sont. On pourrait penser que ce qui est dit là est spécifique, mais il n'en est rien. C'est une quelque chose qui est valable dans tous les cas. Pourquoi ça a été dit ici? Alors c'est justement la question. C'est parce que eux en particulier vont avoir un, par exemple, vont avoir un rôle à jouer comme experts spécifiques. On traite le problème, donc, on a vu le problème de la chevoie. Ensuite, on parle de la situation où c'est une femme qui fait un vœu. Alors, le premier verset. Dans sa jeunesse, elle a encore un âge où son père a un droit, des droits sur elle, et en particulier, son père a un droit d'annuler les vœux qu'elle peut être amenée à prononcer. Alors, le père va les annuler, mais il y a des règles, évidemment. Évidemment qu'il faut que le père réagisse dès qu'il a entendu le vœu. S'il laisse passer du temps, c'est comme s'il avait acquiescé, et ensuite il ne peut plus changer d'avis, ensuite il ne peut plus simplement annuler le vœu. Bien sûr, la femme, elle serait, comme un homme, elle pourra aller chez un expert. Le vœu pourra être annulé, mais il ne pourra plus être annulé par le père, si le père n'a pas réagi tout de suite. Et puis, il y aura la même chose, effectivement, par rapport à son mari, dans la même situation. Le mari, lui aussi, si le vœu est un vœu qui peut changer le fonctionnement de la maison, la femme, elle prend quelque chose sur elle comme vœu qui va peut-être gêner le fonctionnement, alors le mari a le droit aussi, dans l'immédiat, de réagir et d'annuler le vœu. Maintenant, il y a un passou qui dit si vous regardez le verset Vav, il dit Veim eini avia ota biyom shamo, et si son père, le jour où il a entendu le vœu, il a annulé le vœu en quelque sorte. Alors, et si le père a réagi tout de suite, et ses vœux n'existent plus. Mais le verset il continue, il dit Hachem islachla. Hachem lui pardonnera, car son père a annulé les vœux. Quand on parle, qu'est-ce qu'il y a à pardonner puisque le père a annulé les vœux? Alors on est dans la situation où le père a annulé les vœux, mais elle ne le sait pas. Et à supposer que maintenant, elle transgresse sa parole. Elle fait un vœu, elle aussi, les pommes vertes. J'ai rien contre les pommes vertes, hein, c'est juste. Elle a fait un vœu concernant les pommes vertes aussi. Son père l'a annulé, mais elle ne le sait pas. Il a entendu, il était sur la galerie quand elle a fait ce vœu, il a annulé le vœu, elle ne le sait pas. Et elle se met à manger des pommes vertes. En vérité, elle a transgressé puisque son père avait annulé les vœux. Mais comme elle ne le savait pas, alors il y a quand même quelque chose de l'ordre d'une faute, et le passouk dit « Hachem lui pardonnera ». C'est-à-dire qu'en fait, il faut le pardon d'Hachem dans cette situation-là. C'est pas que, finalement, il ne s'est rien passé, puisque le père avait annulé. Il faudra quand même... là on voit que il y a quand même quelque chose de une espèce de résidu. C'est sûr que la parole en question, elle a été annulée, mais elle, dans son travail personnel, dans sa transgression, si on veut, elle est passée outre. Elle a profané sa parole. Elle ne le savait pas, mais elle l'a profané. C'est quand quelqu'un fait une faute, il croit que c'est... Il est en train de faire une faute. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est... Il n'y a pas vraiment de faute. Alors, vous entendez très bien cette situation-là. Tout le monde pense immédiatement à la situation de David HaMelech avec Bathsheba. N'est-ce pas? David HaMelech, quand il a eu ce... Lorsqu'il a eu des rapports avec Bathsheba, on sait que Bathsheba était une femme mariée. Elle était mariée à Uri. Et néanmoins, il a transgressé, il a quand même eu ses rapports avec elle. Mais en réalité, elle était déjà divorcée. Parce que, comme vous savez, les soldats de la guerre donnaient un guet sous condition à leur femme. À partir du moment où il n'est pas revenu de la guerre, alors c'est rétroactif. Depuis le moment où il est parti au front, sa femme était déjà divorcée. Et donc, Bathsheba était divorcée, mais ni Bathsheba. Et c'est pour ça que David HaMelech a fait tchouba toute sa vie sur la faute qu'il n'avait pas commise, en fait. Mais parce que, intérieurement, le travail intérieur était celui de quelqu'un qui transgresse. Hachem l'a protégé. C'était pas une vraie transgression. Mais lui, il savait que il avait eu cette faiblesse, il avait transgressé. Donc son travail intérieur, il ne le savait pas, mais il a fait tout le travail qui correspond à la transgression. Et donc ici aussi, la femme, elle a transgressé, mais en fait, puisque son père l'avait annulé, il n'y avait plus de vœux. Alors bien sûr, si une femme est seule, eh bien elle sera comme un homme de ce point de vue-là. Alors, on a parlé et je voulais juste faire remarquer ce que les Chachamim disent, que on sait très bien que le mal ne va pas triompher ultimement. Donc à la limite, on sait très bien que le mal que les Midianites ont fait au Bnei Israël, il faudra, on le sait, mais ça fait partie, c'est une espèce de tova qu'Hachem a faite à Moshe Rabbeinu, d'avoir le mérite de voir que Midian allait être puni, de voir la punition frapper Midian pour le mal qu'ils avaient fait. C'est pour ça que c'est un recette qu'Hachem a fait à Moshe Rabbeinu, de lui donner la possibilité de vivre cette situation où il voit que Midian, effectivement, est sanctionné. Bien sûr que Moshe savait que Midian, comme on dit, n'emporterait pas en paradis, bien sûr, mais de le voir, de le vivre, c'est une toute autre chose. Et effectivement, ça a été donné à Moshe Rabbeinu. Je veux dire encore une chose sur les villes-refuges. Quand quelqu'un est envoyé dans une ville-refuge parce qu'il a tué par inadvertance, c'est vraiment inadvertant. Ça veut dire que si c'est quelqu'un qui a je sais pas, qui roule dans une rue de village à 100 à l'heure et qui tue quelqu'un, on ne pourra pas dire que c'est vraiment une adulte. Celui-là, il n'ira pas dans une ville refuge. Parce que sa faute, elle est trop proche de Méside, comme on dit. C'est presque volontaire. Il savait bien que s'il y a qui que ce soit qui débouche, il roule à tombeau ouvert sur cette route, c'est comme s'il avait décidé qu'il allait tuer quelqu'un. Donc celui-là, il n'ira pas dans une ville refuge. Et le galout, l'exil en question, apparaît comme une forme faible de mort. Quand on tue, on est passible de mort. Et lui, il a tué, mais il n'est pas passible de la peine de mort. Mais il a quelque chose. Alors, l'aspect là-dedans. C'est-à-dire, il n'est pas dans son lieu habituel. Dans la ville refuge, on lui recrée les conditions de vie qui étaient les siennes dans sa vie. Comme dit la Gemara, si celui qui a tué par inadvertance avait une yeshiva, eh bien, on lui organise une yeshiva dans sa ville refuge. Tout ce qui est, sauf qu'il n'est pas chez lui. Donc, d'une certaine manière, il est mort à ce plan social qui n'est pas, bien entendu, il ne va pas avoir autour de lui les gens qu'il avait l'habitude d'avoir. Parce que les gens ne vont pas venir habiter à côté de lui. Mais, néanmoins, vue de son emploi du temps, etc., il va avoir la possibilité de vivre presque normalement. C'est, donc, on doit apprécier à partir de là le fait d'être installé quelque part. Que comme on le sait bien, les Bnei Israël sont toujours de passage. Là, en l'occurrence, il est de passage parce qu'il va rester dans cette ville-refuge un certain temps. Le temps en question, il sera déterminé de la manière suivante, comme vous le savez certainement. Il va rester jusqu'à la mort du Kohen Gadol au moment où il... Parce que d'une certaine manière, on considère que le Kohen Gadol aurait dû protéger les gens de sa génération. Et quelque part, c'est comme s'il y était pour quelque chose aussi dans la tragédie, dans le fait que quelqu'un est mort. Donc quand lui va mourir, le Kohen Gadol, il va mourir de mort naturelle, bien sûr. Il va, a priori c'est de mort naturelle, eh bien, quand lui sera mort, on considérera le laps de temps pendant lequel il était en galoute, plus la mort du Kohen Gadol, ça suffira, il va pouvoir retourner vivre chez lui, l'assassin par inadvertance. Et c'est pour ça qu'on dit que les mères des Kohanim de Lim tricotaient des écharpes pour les gens qui étaient en galoute, pour qu'ils ne prient pas pour que leur enfant, Kohen Gadol, meure. Parce que, a priori, les gens allaient prier pour qu'il meure, afin qu'ils retrouvent leur liberté. Donc, on lui recrée tout ce qu'il avait, sauf qu'il n'est pas chez lui, c'est tout. C'est ça le galoute. C'est tellement sévère, d'un autre côté, que même si de celui qui est en galoute. Supposez que celui qui est en galoute soit le meilleur stratège et que le clan d'Israël a besoin de ce stratège, il y a des ennemis qui attaquent, on a besoin de ce stratège. On ne peut pas lui donner un sauf-conduit ou quoi que ce soit. Il sort. Et on n'a pas de moyen de dire au Goël Adam, écoute, on a besoin de lui. Va regarder ailleurs et ne remarque pas qu'il est sorti de la ville refuge. On ne peut pas lui donner d'assurance. Donc en théorie, il ne devrait pas sortir de la ville refuge, bien sûr, sauf s'il est prêt à prendre le risque. Mais a priori, on ne va pas lui demander parce que il n'a pas le droit de prendre ce risque. L'autre a une mitzvah de le tuer. C'est un peu compliqué. Ça nous est un peu... Le Goël Adam, c'est la chose suivante, je crois. C'est quand quelqu'un a été tué par une inadvertance, les gens, les proches, éventuellement, ils trouvent que faut faire quelque chose. On ne peut pas rester les bras ballants, etc. Il faut faire quelque chose contre l'assassin. Désigner quelqu'un qui est... Alors c'est toi qui va tuer l'assassin. Mais d'un autre côté, on va dire à l'assassin en question, tu sors pas de la ville refuge, et on va dire au Goël Adam, tu n'as pas le droit d'entrer dans la ville refuge. Donc à la limite, le Goël Adam, il peut dire, s'il sort, je le tue. Bien, vous pouvez imaginer qu'éventuellement, ce ne soit pas quelqu'un parce qu'il a tué par inadvertance. Et la Torah, elle veut que, semble-t-il, que les gens puissent se dire, on a fait quelque chose, on n'est pas resté à rien faire alors qu'on a tué notre proche. Voilà. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Voilà, c'est ça.